Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. Eh bien, en ce début de semaine, c'est la Semaine nationale des proches aidants qui débutait. En fait, hier, 2 novembre, et pour se poursuivre jusqu'au 8 novembre sous le thème de la solidarité. Et dans le but de souligner, nous aussi, l'importance du rôle des aidants dans la société québécoise, je vais m'entretenir en deuxième partie d'émission avec Lucie Gagnon, directrice générale de l'Appui Montréal. Mais d'abord, vous savez, dans le cadre de nos entrevues, choisir de gagner de façon bimensuelle, on continue de mettre en lumière des initiatives qui tentent de favoriser l'élimination des obstacles qui empêchent les jeunes qui vivent avec une limitation fonctionnelle de pratiquer des sports, de pratiquer de l'activité physique comme bon leur semble et aussi d'adopter de saines habitudes de vie. Et aussi peut-être de vous inspirer un petit peu si vous vous sentez visé, que vous avez envie d'emboîter le pas à ces initiatives. Et aujourd'hui, on met en lumière le réseau du sport étudiant du Québec de la Montérégie et leur initiative de mettre en place des compétitions sportives adaptées, et ce pour la première fois dans les écoles de la Montérégie. Bonjour Sylvie Cornelier.
Bonjour Madame Paquette.
Vous êtes la directrice générale du réseau du sport étudiant du Québec de la Montérégie qui a comme mission d'assurer depuis 1974 la promotion, le développement du sport, de l'activité physique et ce au niveau primaire, secondaire, collégial, de l'initiation jusqu'au développement même du sport de haut niveau. Bon, et tout ça, bien sûr, on le sait, ça favorise l'éducation, la réussite scolaire, la santé des jeunes, santé globale de ces enfants-là. Je tiens également à dire que vous rejoignez 175 000 étudiants athlètes dans 334 écoles primaires, 75 écoles secondaires, oui. Mais jusqu'en 2013, les jeunes qui vivent avec des limitations fonctionnelles n'étaient pas votre public visé. Vous avez eu envie de remédier à cette situation-là. Pourquoi?
Bien, dans les faits, c'est parce que... On est très impliqués depuis des années au niveau du secteur régulier, si on peut dire, des jeunes qui n'ont pas de limitation. Mm-hmm. Et depuis quelques années, je laisse chaque année au défi sportif voir les écoles de ma région qui participaient au défi sportif et pour aller saluer les intervenants, les enseignants. Et j'avais une préoccupation, j'avais un intérêt de m'impliquer au niveau des étudiants qui ont une limitation fonctionnelle. Mais c'était le moyen pour y arriver.
Ouais.
Alors, je me disais, si je fais ça au travers avec les coordonnateurs que j'ai pour les jeunes du régulier, ça va passer par-dessus, ça va être comme l'objectif en dernier lieu qu'on va s'en occuper. Moi, je voulais vraiment mettre sur pied un programme qui pouvait vraiment, qu'on pourrait s'investir auprès de ces jeunes-là pour leur donner une offre de service pareil comme la clientèle régulière. Alors, c'est pour ça que j'ai rencontré M. Pierre Morin de Choisir de gagner et je lui ai identifié que mon intérêt, mais aussi ma problématique qui était financière pour pouvoir engager une personne ressource qui serait dédiée complètement à cette clientèle-là. Alors, Choisir de gagner m'ont rencontré quelques mois plus tard pour dire on a trouvé le financement par un projet. Alors, tu peux engager les personnes ressources et tu peux mettre de l'avant pour les 3 prochaines années ton objectif d'offrir un programme pour la clientèle avec des limitations fonctionnelles.
Et ce programme-là, c'est des compétitions sportives adaptées et c'est la première fois que ça a lieu dans des écoles de la Montérégie.
Oui.
Ça s'adresse à qui ce programme-là?
Ensuite, ça s'adresse à toutes les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle, que ce soit auditive, intellectuelle, langagière, motrice, les TSA, les TED, la santé mentale et la santé et les visuels aussi. Alors, c'est toute la clientèle, finalement.
Et pour bien établir les besoins de ces jeunes-là, vous avez effectué une tournée à travers les différentes écoles. Qu'est-ce que cette tournée-là a permis de révéler, en fait, de mieux cerner les jeunes, mais aussi leurs besoins, leurs envies, leurs désirs en tant que sport, là, d'activité physique?
Bien, dans la première année qu'on a parti le projet, au départ, on a fait un recensement. On voulait voir dans toutes les écoles primaires, les écoles qui avaient primaire et secondaire, qui avaient cette clientèle, et savoir combien qu'il y avait d'étudiants. Et par la suite, on a mis une tournée parce qu'on a dit, faut se faire connaître, faut montrer aux gens qu'on a un projet puis qu'on veut mettre des choses en place, mais on voulait aussi connaître leurs besoins. C'est quoi leurs besoins? C'est que le meilleur moyen, c'est de mettre une tournée en place pour leur faire vivre différentes activités au travers les écoles primaires et secondaires. Ça nous a permis, la tournée, de connaître les difficultés aussi qu'ont les écoles avec la clientèle. Puis on s'est rendu compte que les besoins et les difficultés étaient très variables d'une école à l'autre. Je vais vous donner un exemple. On a des écoles régulières qui ont une clientèle avec des limitations, mais qui ont une faible population d'étudiants dans leur école qui ont des limitations. Alors, leur préoccupation, c'est comment je peux mettre en place des activités qui vont répondre à tout mon monde dans mon école. Alors qu'on a d'autres écoles qui sont des écoles spécialisées où les élèves proviennent de partout, soit en Montérégie, même à l'extérieur de la Montérégie. Et organiser une activité de fin de semaine, ça devient des fois très difficile pour pouvoir les faire déplacer avec les parents ou s'organiser pour revenir au lieu de compétition. Alors, c'est pour vous donner un exemple de qu'est-ce qu'on a eu à faire face là, quand on a fait la tournée ou que les écoles n'ont pu nous identifier c'était quoi leur problématique. Et,
Donc, dans ce cas-là, c'était une problématique de mobilité.
Oui. Pas juste la mobilité, mais aussi une problématique de mettre en place, exemple, une équipe sportive alors qu'on a des jeunes de limitations différentes. Avec une très petite clientèle. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ces étudiants-là?
Ouais. Comment a réagi le milieu, c'est-à-dire la réponse des intervenants, des enseignants, des éducateurs physiques? Ça a été positif, Sylvie?
Ça a été excessivement positif. Il y a même une directrice, quand je suis arrivée dans son école, elle me dit « Ah, j'ai l'impression qu'il y a le Père Noël qui arrive aujourd'hui. » Alors, la réponse est très positive. On a été accueillis favorablement dans nos écoles pour développer ce projet-là.
Et puis, vous avez organisé, bon, il y a eu cette tournée-là qui a été effectuée, puis par la suite, il y a eu des événements qui ont été proposés. Quels étaient ces événements-là? De quelle façon ça s'est déroulé?
En fait, on voulait faire des événements tests dans la première année pour voir qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux et qu'est-ce qu'on peut mettre comme activité qui va répondre à notre clientèle. Alors, on a organisé une compétition d'équipe en soirée qui était le hockey-ball qui a vécu un succès. Après la soirée, les jeunes ont dit « C'est quand la prochaine compétition? » ils ont adoré beaucoup l'expérience. Ensuite, on a vécu une expérience, un sport individuel, une compétition de natation qui s'est déroulée durant la journée. Alors, les jeunes, ils ont quitté l'école pour venir au lieu de compétition avec leurs enseignants, puis on a eu la compétition de natation qui a très bien été aussi, on le voyait, puis on a eu une clientèle assez diversifiée dans le sens qu'on avait des visuels, des jeunes qui avaient des problèmes visuels, d'autres physiques. C'était très varié. Alors, ça a été la beauté de cette compétition-là. Puis, on a eu un autre sport individuel qu'on a vécu sur 5 semaines, la compétition d'athlétisme. Mais cette compétition d'athlétisme-là, on l'a jumelée avec le régulier.
Mm-hmm. Donc, avec des jeunes issus de classes régulières.
Oui. Alors, eux, ils avaient leur compétition. Ils ont pas nécessairement été mixés ensemble, mais on voulait que les jeunes du régulier puissent voir évoluer d'autres jeunes qui avaient des limitations, mais qu'eux aussi pouvaient se dépasser dans un contexte de compétition.
Mm-hmm. Dans un contexte sportif.
Oui.
Bon, quand on parle, depuis tantôt, on parle, Sylvie Cornelier, de cette première année-là, mais cette première année-là, elle est toute jeune, là, c'est 2013-2014.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous a permis? Donc, c'est tout près de vous. Bien sûr, vous n'avez pas beaucoup de rétrospectives, mais qu'est-ce que ça vous a permis d'identifier? C'est quoi le constat de la dernière année?
Bien, en fait, notre constat... en plus des compétitions tests, en plus de notre tournée, on a fait le recensement aussi, mais on a rencontré aussi beaucoup de directions d'école, d'intervenants, d'enseignants qui travaillent auprès de cette clientèle-là. On a participé aussi à des kiosques pour se faire connaître en Montérégie, et ça nous a permis de connaître mieux notre clientèle, mm-hmm. parce que c'est pas une clientèle nécessairement qu'on était habitués.
Oui.
Ça nous a permis en fonction de la clientèle, de développer un calendrier d'activités pour l'année 2014-2015. Voir avec les intervenants quelle activité sur le plan collectif, sur le plan individuel, qui était le mieux adapté, puis qu'on pouvait partir pour tout de suite commencer à initier les jeunes à une pratique d'activité, de pouvoir vivre comme 2 ou 3 rencontres et vivre un championnat régional aussi. Alors, ça nous a permis d'identifier les activités qu'on pouvait mettre en place. Ça nous a permis aussi d'établir un réseau avec des partenaires, avec des intervenants du milieu qui travaillent avec la clientèle pour nous aider à développer une meilleure offre à cette clientèle-là.
Mm-hmm. Quels sont les sports offerts en compétition?
On a plusieurs les sports. En début de l'année, on a vécu le cross-country. On va avoir le soccer, le hockey-ball, le volley-ball avec un ballon d'autruche, la natation et puis l'athlétisme qu'on va vivre à la fin de l'année. Et on a 2 activités où que les jeunes qui sont en chaise roulante vont pouvoir participer, l'athlétisme et le volleyball baudruche.
Sylvie Cornelier, comment ces jeunes-là, donc qui vivent avec une limitation fonctionnelle, et on l'a dit tout à l'heure, qui peut être extrêmement variée, autant d'ordre, peut-être une limitation d'ordre physique, mais ça peut être aussi d'ordre langagière,
oui.
Vivent avec la compétition?
Comment je pourrais vous dire ça? Je pense que qu'est-ce qui fait que les intervenants ils ont le goût de revenir à faire vivre les compétitions à ces jeunes-là, c'est quand on les voit dans le gymnase ou quand qu'on les voit au cross-country, leur performance, juste d'essayer puis de réussir à se rendre, à exécuter qu'est-ce que l'entraîneur, l'enseignant lui a montré, de voir le pétillement dans leurs yeux, je pense que ça veut tout dire. Sont heureux, ils essaient de se dépasser, puis ça crée vraiment là, un engouement. On a le goût de retrouver d'autres activités rapidement pour pouvoir leur offrir. Alors, c'est eux qui nous inspirent quand ils font les activités, d'avoir le goût de n'en faire plus, puis de trouver des solutions pour pouvoir mettre des activités pour qu'ils puissent les vivre comme ils ont le goût de les vivre aussi.
Et j'imagine que, parce que compétition amène un facteur de stress, et pour avoir moi-même assisté quelquefois au défi sportif Altergo, ces jeunes-là étaient fébriles, étaient contents d'être présents, mais en même temps, c'était un stress considérable pour eux, un grand défi de se retrouver simplement là et avoir à aller faire leur compétition sportive. Mais j'imagine que le résultat favorable vient de l'encadrement des jeunes, des intervenants qui sont impliqués et qui arrivent à les préparer de façon adéquate.
Oui, puis qu'est-ce que ça va permettre d'avoir des ligues dans le milieu scolaire? C'est que les jeunes, avant, ils vivaient, ils participaient aux défis sportifs, ils s'entraînent toute l'année pour pouvoir aller à cette compétition-là. Alors, ça augmente le niveau de stress, leur fébrilité pour y participer, pour les aider à se préparer pour participer au défi. Ça va être comme leur championnat provincial, le défi sportif. Donc, ils vont vivre des occasions de compétition où leur professeur entraîneur va pouvoir les préparer autant physiquement que mentalement à participer à cette compétition-là puis faire face à leur stress qu'ils ont. Alors, ça va leur donner des occasions à plusieurs moments durant l'année pour que quand ils vont arriver au défi sportif, ils vont encore mieux préparer.
Mm-hmm.
Donc, ça va leur donner, c'est sûr qu'il y a une petite compétition, mais on a aussi des activités d'initiation pour ceux qui, avec le côté stress de la compétition, qui ont un petit peu plus de difficultés. Mais je pense qu'avec une bonne préparation, les jeunes, ils vont y faire face bien correctement, comme tous les autres jeunes là, à laquelle ils ont une petite fébrilité avant qu'ils rentrent en compétition.
Et là, le projet, bien sûr, se poursuit.
Oui.
Quels sont les objectifs pour l'année qui vient, donc 2014-2015?
Bien, pour 2000, on a envoyé un dépliant, un document promotionnel à l'ensemble de nos écoles avec une offre de service sur toute l'année qui est du mois de d'octobre au mois de juin. Alors, les jeunes, ils vont vivre dans les sports que je vous ai mentionnés plus tôt, des rencontres. Alors, dans certaines disciplines, ils vont avoir deux rencontres. Ensuite, ils vont vivre le championnat régional et ils vont se préparer pour aller au défi. Mmh. Alors, durant l'année, on veut, soit en sport d'équipe ou en sport individuel, leur faire vivre plusieurs occasions de compétition. Ensuite, on a des projets en 5 habitudes de vie. Alors, on veut que les écoles adhèrent davantage à nos programmes qu'on a, comme le défi « Moi, je croque 5 fruits et légumes par jour », un défi qui est lancé au mois de mars à l'ensemble de nos écoles primaires, qui participent aussi au mois de l'activité physique qu'on a au mois de mai.
Mm-hmm.
Fait que c'est d'emmener les jeunes faire de l'activité physique, manger 5 fruits et légumes et d'avoir de faire attention à leur alimentation.
Pour en savoir davantage, on peut consulter votre site web montérégie.rseq.ca.
Oui.
Sylvie Cornelier, je rappelle, vous êtes la directrice générale du réseau du sport étudiant du Québec de la Montérégie. Ça me fera plaisir de vous rencontrer lors du défi sportif. C'est sûr, j'y serai présente.
Bien, ça va me faire plaisir aussi. Je vous remercie beaucoup.
Au revoir.
Au plaisir. Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Bonjour Lucie Gagnon. Bonjour Lucie Gagnon, vous étiez en train de parler à quelqu'un d'autre?
Oui, je m'excuse, je faisais fermer ma porte.
Vous êtes la directrice générale de l'Appui Montréal et on se parle dans le cadre de cette Semaine nationale des proches aidants. Prendre un petit moment dans l'année, 7 jours, pour témoigner notre support, notre gratitude, reconnaissance envers ces gens-là qui consacrent leur temps, leur énergie sans rémunération. Pour auprès, en fait, et pour les gens plus âgés, malades également, c'est pas un luxe. Ils sont combien au Québec, Lucie Gagnon?
Au Québec, on parle de presque 300 000 personnes qui aident des proches aidants, qui aident des aînés à chaque jour.
Et j'imagine qu'avec le vieillissement de la population, c'est un chiffre qui devrait, qui devrait croître là, avec les années.
En tout cas, certainement, les besoins vont augmenter. C'est certain que le vieillissement de la population, c'est inquiétant. Le nombre de proches aidants, peut-être pas. Peut-être qu'on va aussi avoir des proches aidants qui vont aider plus de personnes parce que les aînés ont pas tant d'enfants que ça. Donc, c'est un besoin qui est appelé à augmenter, mais c'est aussi une responsabilité qui va peut-être croître avec le temps.
Comment on devient proche aidant?
On devient proche aidant avec le temps. Devenir proche aidant, c'est une situation qui c'est un changement de rôle. Devenir proche aidant, c'est être le conjoint de quelqu'un et devenir aussi son soignant parce que la personne est malade. C'est être la fille de quelqu'un et devenir son soutien économique pour pouvoir gérer ses affaires, devenir la personne qui s'occupe de faire ses achats, de faire de toutes ses ressources. Donc, on devient tranquillement pas vite. Souvent, on s'en rend compte suite à un événement. À Noël, papa avait l'air vraiment plus mal en point qu'avec d'habitude. On se rend compte que, c'est vrai, il a plus besoin qu'on s'occupe de faire son épicerie, de l'aider. Donc, c'est quelque chose qui se fait un petit peu progressivement, mais dont on se rend compte un peu comme suite à un événement.
Oui. J'ai l'impression, Lucie Gagnon, qu'il y a bien des gens qui sont proches aidants, mais qui ne se nomment pas, se décrivent pas de cette façon-là parce qu'ils s'en rendent pas compte. Mais à un moment donné, on accompagne notre mère chez le médecin, on va l'aider à prendre le bain quelques fois par semaine. On est un proche aidant, même si on se décrit pas nécessairement comme tel.
Parce que notre première relation avec cette personne-là, c'est une relation filiale. On est le fils, on est le père, on est le conjoint. Et le changement de rôle nous apparaît tout à fait normal, nous apparaît naturel. On s'attend à ça en vieillissant, de s'occuper d'un parent, de s'occuper d'un conjoint malade. Et donc, on ne nomme pas cette situation-là comme étant différente de la situation de filiation précédente. C'est un peu naturel, donc pourquoi on appellerait ça différemment? Ça fait partie de notre rôle, on conçoit ça comme quelque chose de normal.
Le proche aidant est-il toujours membre de la famille?
Pas nécessairement. Il y a des proches aidants qui sont des amis, il y a des proches aidants qui sont des voisins. Ce qui est important, c'est qu'il y ait, avant d'être la personne qui soutient un aîné, on était en relation avec lui ou avec elle de façon assez proche. Donc, c'était soit un ami, un voisin ou encore un enfant. Ça peut aussi être le beau-fils. Il n'y a pas nécessairement de relation familiale, mais on est en relation quand même de façon indirecte.
Quels sont les écueils, les obstacles? Parce que, vous êtes directrice générale de l'APU Montréal, vous en côtoyez des proches aidants. Donc, ce que vous entendez auprès d'eux, leurs interpellations, leurs inquiétudes, leurs limites?
La première chose, c'est la difficulté de concilier les rôles. La majorité des proches aidants ont entre 45 et 64 ans. Donc, ce sont des adultes qui sont encore au travail. Souvent, ce sont aussi des gens qui ont des enfants, des petits-enfants peut-être. Donc, la difficulté, c'est d'abord de concilier les différents rôles. Pour les proches aidants qui sont plus vieux, qui sont en soutien, par exemple, à leur conjoint qui souffre de la maladie d'Alzheimer, la grande difficulté, c'est que ça ne s'arrête jamais. Alors, ça, c'est deux grands défis. Il y a un défi d'appauvrissement pour beaucoup de gens qui sont obligés d'arrêter de travailler ou de réduire leurs heures de travail pour pouvoir soutenir une personne. Et par-dessus tout ça, si on peut dire, il y a toujours la complexité du soutien à gérer. C'est-à-dire qu'une personne qui est en perte d'autonomie, elle va avoir besoin qu'on s'occupe de gérer ses rendez-vous médicaux, on va avoir besoin qu'on la soutienne dans toutes sortes de tâches, et ça devient tellement complexe, c'est très difficile à faire.
Quels sont les services offerts par l'APUI?
À l'APUI, nous sommes une organisation qui offre un seul service direct aux proches aidants, c'est une ligne info-aidant. au 1-855-852-7784. On va écouter les proches aidants, mm-hmm. on va les informer et on va les référer. C'est-à-dire qu'on va chercher pour eux et avec eux le soutien dont ils pourraient avoir besoin. C'est certain que les proches aidants, quand ils cherchent quelque chose, souvent c'est pour la personne qu'ils aident. C'est pour la personne âgée. Ah, je cherche un peu de une personne qui pourrait venir faire du ménage pour mon père. Mais les proches aidants eux-mêmes peuvent aussi avoir besoin de soutien, que ce soit du répit, que ce soit de l'aide pour transporter une personne, pour prendre n'importe quel congé. Oui. Alors, ces soutiens-là, ils vont les trouver avec la ligne Info Aidant dans leur quartier, à l'endroit où ils sont. On va les référer vers des ressources qui sont proches d'eux.
Est-ce qu'il y a, et bien sûr, Lucie Gagnon, évidemment, on mettra le numéro que vous nous avez mentionné sur notre site. Est-ce qu'il y en a des ressources financières pour les proches aidants?
Les proches aidants, généralement, on reçoivent pas d'argent pour leur rôle. C'est vraiment un rôle gratuit. Certains d'entre eux vont peut-être avoir droit à des crédits d'impôt parce qu'ils vivent avec une personne en perte d'autonomie, mais sinon, il n'y a pas de ressources financières directement pour les proches aidants. Le réseau des appuis à travers le Québec, lui, a des ressources financières pour s'assurer de développer de nouveaux soutiens à l'intention des proches aidants, pour qu'il y ait plus de répit, pour qu'il y ait plus de soutien psychosocial, plus d'information et de formation à leur intention. Donc, l'argent va vers des organismes communautaires qui offrent les services.
Mm-hmm. Et pour terminer, parce que le temps file, cette Semaine nationale des proches aidants, quels seront les événements à observer?
Il y en a beaucoup. Mm-hmm. sur le site Internet de l'appui à l'appui.org, les gens vont pouvoir trouver plusieurs calendriers, en fait, selon leur région, je crois. Et à Montréal, ils peuvent rechercher des événements reconnaissance qui sont offerts, par exemple, par la Société Alzheimer ou HACHIM, qui est une organisation qui loge des personnes, ou encore des cafés rencontres. Il y a même une journée ressourcement SPA qui a été organisée par la Société Alzheimer de Montréal.
Mm-hmm.
Donc, il y a toutes sortes d'activités. Il s'agit simplement de consulter notre site Internet pour connaître le calendrier complet.
Et c'est vraiment des activités autant dans le but de les outiller, mais pour qu'ils se ressourcent également.
Oui, oui. On essaie de rendre les choses un peu plus ludiques pendant la semaine des proches aidants et on essaie de reconnaître le travail puis leur rôle dans notre société. Donc, à la fois, on leur propose des activités comme un café-rencontre, comme un brunch ou une activité donc de socialisation sympathique.
Ouais.
Mais on peut aussi proposer en même temps de la formation, de l'information, des conférences, etc.
Donc, www.lappui.org. Lucie Gagnon, directrice générale de l'Appui Montréal, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Merci également à tous ces proches aidants qui ont un rôle extrêmement déterminant dans notre société et que vous représentez un petit peu pour nous aujourd'hui.
Merci.
Au plaisir.
Au revoir.
Eh bien, c'est déjà la fin. Merci à Jean-Sébastien de la Liberté. À la console, c'était Marianne Paquette au micro. Nous, on se retrouve demain. D'ici là, on est en rediffusion à 17h. Vous pouvez également nous suivre au canalm.org, 1-800-361-0635, poste 220 pour nous joindre par téléphone. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Bye-bye.